Alors je vous remercie d'être venu, chers collègues, chers amis, d'être sorti de chez vous pour voir quelque chose d'autre. Et dans cet autre, je crois qu'on peut déjà dire que la pensée unique, finalement, empêche de penser. Et que quand on dit dialogue, on dit déjà deux pensées différentes, mais qui vont s'interpénétrer et échanger, et ceci, eh bien, a priori, sauve la pensée. Alors, ce soir, on va essayer justement de faire dialoguer deux pensées, une technicienne et une peut-être plus humaniste, qui vont essayer de se retrouver pour dire quelque chose de l'homme. Alors, qu'est-ce que vient faire un orthopédiste, un chirurgien orthopédiste là-dedans ? Effectivement, j'ai été élevé à mettre les os droits, selon un angle bien prédéterminé, et avec ça, ça devait marcher. Et puis on s'aperçoit que certaines personnes ont été opérées selon les règles, mais que rien n'y fait, elles ont mal exactement comme avant, parfois même plus qu'avant. Et puis d'autres ont tous les angles qui vont bien, tous les disques qui vont bien, puisque je fais essentiellement de la chirurgie vertébrale, tout est bien. Mais ça finit mal, et le patient a mal. Alors que nous ne savons rien mettre en évidence. Alors, de fait, de notre position de CHU, on voit une grosse population de gens qui ont vu beaucoup de chirurgiens, beaucoup de médecins, qui vous disent « Mais ces médecins sont nuls, ils ne trouvent pas ce que j'ai. » Et donc, on est obligé, à un moment ou à un autre, de s'interroger sur ce qui se passe. Peut-être derrière la douleur. Derrière ce que dit le patient, est-ce que le patient n'exprime pas autre chose? Et l'appareil locomoteur, c'est quand même un appareil de la relation, du prendre, du courir, du fuir, du avancer, du reculer, qui traduit notre attitude vis-à-vis du monde. Et donc, on peut s'interroger sur ce que la douleur nous dit. Est-ce qu'elle nous dit des choses sans intérêt? Bien non, bien sûr qu'elle nous dit des choses d'abord fondamentales, c'est notre survie qui est en jeu. Si nous n'avons pas mal, nous allons mourir, parce que nous allons nous blesser, nous allons nous brûler. On sait très bien que les paraplégiques ont des escarres qui sont des catastrophes, parce qu'ils ne sentent plus la douleur. Et donc, la douleur, c'est d'abord une alerte qui nous maintient en survie. Mais c'est aussi, bien sûr, notre limite. Quand j'ai mal, je ne peux plus. Et on entend ce discours. Ah, je pouvais, mais maintenant que je suis trop vieux, etc., je suis limité. Et la douleur me renvoie à cette limite qui m'arrête. Elle dit aussi que j'ai pu et je ne peux plus. Et ça, c'est souvent terrible en vieillissant. Toutes ces choses qu'on a fait pour la dernière fois. Et on s'en aperçoit a posteriori. On ne peut pas dire, allez, pour la dernière fois, je fais ça. Bien souvent, on se dit, ah, cette fois-là, c'était la dernière. Et peut-être que la douleur nous amènera à transformer cette dernière fois en une première fois. C'est la première fois que ma petite fille m'a amené au marché. Et ben, cette douleur m'a permis de créer un nouveau lien. C'est donc à la fois une perte, mais c'est aussi une nouvelle relation à l'autre. C'est aussi, sans doute, un moyen de relation. De relations parfois très amicales, très positives, mais aussi parfois très négatives. C'est le pouvoir que je peux exercer. Si j'ai mal, si je suis malade, ma femme ne me quittera pas. Si j'ai mal, je vais pouvoir demander d'eux. Si j'ai mal, je garde une existence. Et on comprend bien que si le patient fonctionne sur ce mode-là, nous pourrons le remettre à neuf techniquement. Pourquoi devrait-il avoir moins mal? Puisque c'est sa vie. Et là, nous sommes bloqués. Finalement, cette douleur révèle la souffrance, c'est-à-dire le manque de relation ou une anomalie de la relation. Quelque chose qui cloche à ce niveau-là. Alors, quand on est du côté technicien comme je le suis, au moins à la base, il est fondamental que jamais, dans la relation avec le patient, celui-ci ne puisse penser qu'on croit qu'il n'a pas mal. C'est une fausse douleur. On m'a dit que c'était dans la tête. Ça, Si à un moment ou à un autre, dans la discussion, cette sonorité arrive, il faut stopper là. N'allons pas plus loin, on a loupé quelque chose, il faudra y revenir peut-être, mais il est fondamental que le patient se sache considéré. Il existe avec sa douleur, nier la douleur, c'est nier le patient. Et ça, sur des patients fragiles, c'est un drame qui est difficile à rattraper. Donc, puisqu'il a mal là où il le dit, il faut d'abord, du côté technique, que nous essayions au maximum de vérifier tout ce qui est mécanique. Ça ne veut pas dire que s'il y a une lésion mécanique ou chimique, parce que là je m'intéresse à l'appareil locomoteur, mais ce que je vous dis est assez vrai pour le digestif, pour le neurologique, pour le dermato, pour tout ça. Toutes les spécialités sont concernées. Eh bien, il faut que je vérifie tout ce qui est organique. Ensuite, on verra si la cause déclenchante est aussi psychologique, mais étiqueter quelqu'un, c'est déjà l'enfermer. Et l'enfermer, qu'on l'enferme dans un statut d'orthopédiste ou qu'on l'enferme dans un statut de psy quelque chose, c'est insupportable. Donc attention, nous devons d'abord vérifier tout ce qu'il y a de mécanique, car nous sommes des techniciens, et juridiquement nous le prendrons en pleine figure si jamais on loupe cet aspect-là du problème. Mais de l'autre côté, ce n'est pas parce qu'il y a du mécanique qu'il n'y aurait que du mécanique. Et donc il va falloir replacer le sujet au centre. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que c'est que le patient essaye de me dire? Alors, il y a l'examen, bien sûr, mais vous avez sans doute tous un jour consulté un médecin qui regardait des radios. Eh bien, quand vous êtes là et que moi, je regarde votre radio par ici, ça ne va pas me faciliter la conversation. Quel va être le lien quand je vous tourne le dos et que je regarde votre radio? Et donc, il va falloir remettre le patient au milieu de la discussion et savoir si il me dit autre chose que sa radio. Et donc, échanger. Échanger, c'est pas si simple que ça. Et bien souvent, on voit le patient qui dit « Mais mon médecin ne m'écoute pas. » C'est vrai. Alors, heureusement pour moi, ça n'a pas été enregistré sur des consultations d'orthopédistes, mais chez des généralistes, le temps moyen entre la fin d'une question d'un médecin et le début de la question suivante, accrochez-vous, 18 secondes. Imaginez, quand vous allez devoir dire à votre médecin que vous avez mal au ventre depuis que votre père a fait des choses, ou que votre mère est partie, ou que vous avez divorcé, ou que vous êtes chômeur, ou que, en 18 secondes, il faut vraiment préparer sa réponse. Et donc vous n'aurez jamais l'occasion de le dire. Alors effectivement, c'est vrai que du côté des médecins, on n'a pas forcément à entendre des choses qui nous dérangent trop. On n'a pas forcément envie d'entendre la vie des gens. On aimerait avoir un symptôme simple, une réponse simple, un résultat simple. Manque de chance, on traite des humains. Et le patient de l'autre côté, il dit « Mon malade ne m'écoute pas ». Mais au fait, vous avez essayé de lui dire ? Ben oui, mais vous savez, c'est-à-dire, c'est pas facile. Jamais ils n'ont essayé de le dire. Ils se réfugient l'un et l'autre derrière le « il n'a pas voulu m'écouter ». Oui, mais il ne me l'a pas dit. Et inversement. Et donc, on va être confronté à des choses que l'on ne sait pas maîtriser. On a été élevé en médecine et dans la société à maîtriser les événements. Et bien là, on ne maîtrise plus rien du tout. Alors, juste pour s'amuser, pour se détendre, on va écouter ce que dit le corps. Je ne résiste pas à cette fâcheuse habitude, mais voilà quelques expressions de la bonne langue française qui n'ont pas été mis au point par des penseurs philosophiques ou des médecins de haute volée, c'est ce qu'on dit tous les jours. Alors, vous avez des expressions de ce type-là sur le corps, bien sûr. Alors, vous pouvez en lire quelques-unes, hein, elles sont toutes pareilles, vous les connaissez, puis vous en avez sûrement d'autres nouvelles qui m'intéressent toujours d'entendre. Sur le dos, moi je fais de la chirurgie vertébrale, alors l'expression « on en a plein le dos », c'est facile. Mais se faire faire un enfant dans le dos ou se faire casser du sucre sur le dos, ou se faire bouffer la laine sur le dos, voyez, tout ce qu'on sait. Et un jour, j'ai une personne avec lesquelles je travaillais qui m'a dit, c'est marrant, depuis que j'ai changé de société, ma femme me dit que j'ai grandi. Ah, on se sent mieux quand même. Et c'est vrai, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on entend. Et quand notre gamin se tient tout voûté, on sait que c'est peut-être que ça va pas si bien que ça derrière. On peut toujours lui dire, tiens-toi droit, tout le monde s'en fout. Alors voilà pour le dos, voilà pour l'appareil locomoteur en général. On court derrière sa vie. On est au coude à coude, etc. Voilà, juste pour que vous en voyez quelques-unes, puis ça va vous ouvrir la tête. Mais on m'a dit, ah, ça c'est encore un problème franco-français. Évidemment, la langue française, n'est-ce pas? Alors, les voilà en espagnol, en anglais, en coréen. Donc, a priori, on va élargir un petit peu le cercle. Et voilà encore d'autres, puisque c'est le cycle de l'autre, eh bien, en portugais, en arabe, en italien. Il me manque encore quelques langues que j'aimerais bien récupérer également. Mais on voit bien que c'est un problème de l'humanité. Ce que je dis là, l'ensemble des peuples l'a déjà dit. Et j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais comme on est dans un monde qui a tendance à fermer les portes, finalement, en rouvrir quelques-unes, ça peut être intéressant. Alors on m'a dit aussi, oui, mais ça c'est des trucs de philosophes, voilà, le bon sens populaire, on sait que ça ne vaut rien, à voir pour qui y vote. Donc, regardons un petit peu, si au fond, puisqu'on veut du mécanique, qu'on veut du scientifique, eh bien, descendons dans le biologique. Pavlov et les sucs gastriques, on sait très bien que quand vous passez, pour ceux qui sont passés devant une boulangerie tout à l'heure et qui commençaient à avoir faim, eh bien, hein, c'est pas forcément la chocolatine que vous avez mangée qui vous a fait saliver. C'est juste l'idée. Et ça marche. Ça marche, mais je vous parlais tout à l'heure de bon rythme cardiaque. Oui, ça commence à se calmer, merci. Mais quand même, voilà. Hein, je suis pas trop rouge. Sport et endorphine, c'est un vrai bonheur. On sait très bien que les gens qui courent, au-delà de certaines doses, eh bien, ont toujours besoin de courir plus. Et que s'ils s'arrêtent, ils ont mal partout. Et s'ils arrêtent, ils sont mal. C'est pas seulement qu'ils ont mal, c'est qu'ils sont mal. Parce qu'il leur manque leur petite dose d'endorphine quotidienne, ou bi-hebdomadaire. Alors ça, les psychiatres ont un peu de mal avec les addictions, il leur faut des molécules. Mais enfin, bon, quand même, c'est intéressant. Bon, libido et vasoacteur, je ne pense pas que j'ai besoin de faire de dessins à quiconque. Si on regarde un peu les problèmes des lymphocytes, ça au moins c'est bien parce que ça se dose, eh bien on s'aperçoit très clairement que lorsqu'il y a un syndrome de perte, un décès, parfois la perte d'une identité, plus de métier, plus départ à la retraite, eh bien le taux des lymphocytes baisse. Baisse à tel point que l'on est capable de laisser éclore un cancer qui était jusque-là maintenu ou qui aurait été détruit en temps normal. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'on a abaissé l'âge de la retraite, mais que le pic de décès qui suit la retraite, eh bien, il existe toujours. C'est donc pas l'usure à 66 ans qui crée le décès, parce que quand on ramène la retraite à 60, eh bien, l'usure est passée à 61 ans. C'est donc pas de l'usure. C'est qu'il y a autre chose derrière. De façon assez intéressante, l'effet placebo, c'est toujours quelque chose qui en médecine a interrogé les gens, dire ça ne se fait pas de donner un placebo, ou bien est-ce que c'est bien éthique? Eh oui, mais le problème, c'est que quand on enregistre en IRM fonctionnel cérébral l'activité de l'hypothalamus, on s'aperçoit que le fait de donner un placebo fait déclencher des endorphines dans le cerveau. C'est donc que l'effet placebo est un véritable effet antidouleur. C'est pas neutre. Ça, c'est chez l'homme, mais c'est parfois intéressant de regarder l'animal. Pardon. Si vous mettez un petit rat dans une cage, quand vous lui donnez à manger, il lève la tête, s'appuie sur ses deux pattes à 40% sur chaque patte arrière, et il se nourrit. On lui fait une scarification sous une patte, le rat n'est pas fou, il lève la patte. Jusque-là, je ne vous ai pas appris grand-chose. Il cicatrise, ben il se remet sur les deux pattes, logique. Mais vous lui mettez de la lumière dans la tête, et le rat n'aime pas la lumière. Il se remet sur une patte, alors que celle-ci reste cicatrisée. Le stress le ramène à son état, comme s'il avait une plaie sous le pied. Et si je maintiens la lumière suffisamment longtemps, suffisamment souvent, même quand je l'arrête, il reste sur une patte. Alors ça, pour des chirurgiens ou pour des médecins, c'est intéressant parce que, docteur, vous m'avez opéré il y a 2 ans. Ça a été très bien. Ah, ça, je vous remercie vraiment. Alors là, hein, un petit peu de pommade, ça fait toujours du bien. Mais vous voyez, ça commence un peu la même douleur qui me reprend. Vous voyez ce que je veux dire, etc. Et la question, c'est sur un plan technique, qu'est-ce qui se passe derrière? Mais sur un plan personnel, c'est dites donc, mon petit monsieur, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? Votre fils s'est barré, votre... Hein? Voilà. Toutes ces questions, tous ces flashs que le rat ne supporte pas, nous ne les supportons pas plus. Et nous entendons ces récidives douloureuses comme une récidive d'ulcère gastrique, comme un psoriasis qui repousse, comme. Alors, on peut descendre un peu plus loin. Ça, c'est un peu grossier. À la limite, le rat dans une cage, tout ça n'est pas peut-être totalement exact. Voilà des petits schémas, il n'y en a qu'un. Donc, ça ne va pas vous faire peur. Un petit schéma de la douleur. Un rat, lorsqu'on lui injecte un produit qui entraîne une inflammation sur une patte, on peut mesurer sa douleur. Et c'est la petite surface blanche que vous avez. Le rat a une certaine mémoire. Alors qu'il est revenu complètement à la normale, je réinjecte le produit qui déclenche l'inflammation et paf, il a deux fois plus mal. Vous voyez que ma petite surface blanche a doublé. Alors que c'est la même dose. Et alors que cliniquement, il était revenu à la normale. Voilà, on va vous réopérer. Hein. Et quand vous demandez aux gens, ils vous disent, alors la première intervention, ça s'est bien passé, mais alors la deuxième, nous on a fait la même chose. Mais la deuxième, ils ne l'ont toujours pas digéré. Si on continue, on prend le même rat avec la même injection, mais on le stresse avant. Et dès la première injection, il double déjà sa surface douloureuse. Et si je le réinjecte, je triple la surface douloureuse. Ça nous dit des choses en clinique. C'est des choses qu'on connaît, qu'on a vues. Non seulement en clinique, mais dans nos familles. Hein? Ça, c'est... Alors, est-ce que ça, c'est aussi un phénomène psycho, machin, mais un peu de la fumée? Hein? C'est vrai qu'on a toujours cette tendance un petit peu à se dire, est-ce que c'est vraiment vrai, quoi? Alors, c'est intéressant parce que c'est un phénomène que l'on peut inhiber. On peut l'inhiber avec l'injection d'une kétamine. Alors là, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais c'est un inhibiteur d'un récepteur qui participe à la physiologie de la morphine. On va le faire comme ça, il y a un anesthésiste dans la salle, je me méfie. Mais a priori, c'est à peu près ça. Eh bien, si j'injecte cette kétamine, je ne change pas le phénomène douloureux au départ. Inflammation, douleur, c'est connu. Mais par contre, le phénomène mémoire est inhibé. Donc, on est capable d'identifier le récepteur qui va faire que il y a un phénomène mémoire. Et si on fait la même expérience avec le stress, eh bien, on inhibe l'augmentation de douleur liée au stress et l'augmentation de douleur liée à la reproduction de l'inflammation avec le stress. C'est donc le même récepteur qui bloque l'effet mémoire et qui bloque l'effet stress. On a les mêmes courbes avec certains anesthésiques qui sont des dérivés morphiniques. Ce qui veut dire finalement que le cerveau finit par être conditionné par l'état d'âme du rat. De même que les... Vous voyez, il y a une espèce d'interconnexion. La répétition et puis aussi l'état d'âme va changer la réponse pour un même phénomène inflammatoire. Alors, ce que je vous décris, ça a été décrit en fait dans énormément de situations, et c'est ça qui est passionnant, c'est que ça, si ça se limitait à juste l'inflammation de la patte du rat, bon, c'est intéressant, mais on peut dormir sans, mais ça intervient dans les sécrétions hormonales et la relation de couple, et on est toujours frappé par un certain nombre de couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et puis qui déclenchent une grossesse juste après une adoption. Qu'est-ce qui s'est passé derrière, là? Alors que tous les examens étaient normaux, ça ne fonctionnait pas, puis tout d'un coup, ça se met à fonctionner. Tiens, et si on regardait? Si on regarde également l'ambiance et la cicatrisation. Il y a des gens, on se dit tout de suite, ça va mal cicatriser, cette affaire. Alors, c'est vrai qu'il y a le tabac, il y a un certain nombre de facteurs exogènes, mais en même temps, il y a une expérience très intéressante qui mesure le temps de cicatrisation d'une lésion faite, et on s'aperçoit que quand on fait discuter le couple sur les dernières vacances, ça va, ça cicatrise en un temps T, si on discute argent aux beaux-parents, ça double le temps. Ça ne vous rappelle rien, bien sûr, mais quand même. Alors, autre phénomène qui peut être également intéressant, la douleur déclenchée par un petit choc électrique sur la cheville. Là encore, on fait une IRM fonctionnelle et on regarde ce qui se passe dans les zones qui intègrent la douleur. Eh bien, pour le même choc, le cerveau déclenche ou ne déclenche pas, si le sujet expérimente, eh bien, est soutenu par son conjoint. Et on voit bien là l'effet des soins palliatifs. Comment se fait-il que le patient, en fin de vie, dans un service normal, n'a besoin que de beaucoup moins de morphine quand il arrive dans une ambiance de repos, d'apaisement, de sérénité? C'est quand même curieux. Ben non, ça se mesure. C'est donc qu'il y a bien une relation entre les deux. Et on peut également utiliser cette imagerie, donc des moyens hyper sophistiqués qui changent tous les jours. Il y a tous les jours quelque chose de nouveau dans ces techniques-là pour regarder la plasticité du cerveau. Et on a vu chez des enfants roumains qui étaient donc privés dans des... Une personne orphelinat qui était privée de toute relation, eh bien, à l'IRM, ils avaient une atrophie cérébrale qui revenait au fur et à mesure qu'on recréait du lien social. Ça veut dire, et ça c'est quand même assez passionnant, que ce qui a été attaqué dans l'enfance, ce qui a été attaqué parfois avant la naissance, parce qu'il y a eu des expérimentations extrêmement intéressantes de fait, je ne sais pas si on aura le temps, mais sur les rats intra-utéraux, eh bien, ce qui est fait là, et qu'on a longtemps considéré comme définitif, je me souviens d'un livre qui s'appelait « Tout se joue avant 6 ans », serait donc foutu à 6 ans ou à 2 ans. Eh bien, cette plasticité neuronale qui perdure permet de dire qu'il y a d'autres voies possibles, que l'on peut sortir, difficilement peut-être, mais que l'on peut sortir en réinjectant quelque chose de la vie chez ces gens. Et ça, ça me semble quand même un message qui vaut le coup, et je vous remercie d'être venu, ne serait-ce que pour ça. Alors, nous comme techniciens, finalement, on pourrait s'arrêter là, on pourrait se dire, bah, c'est déjà pas mal, j'ai compris qu'il y avait une lésion, moi, cette lésion égale cette technique, ce serait déjà bien finalement si on était toujours sûr de la technique qu'il faut appliquer à une lésion. Et puis c'est encore mieux, parce que là, j'ai intégré le patient dans la discussion, et donc pour certains patients, je vais peut-être avoir telle ou telle stratégie, les opérer parce que je sais que ça marche, ne pas les opérer parce que je ne sais que ça ne marche pas. Je suis un peu choqué lorsqu'on s'arrête là. Parce qu'on, simplement à quelqu'un qui a déjà pas mal de soucis, on dit c'est un mauvais candidat pour la médecine. C'est un mauvais candidat pour la chirurgie. La chirurgie ne peut rien pour vous, cassez-vous. Ce discours-là, qui a quand même, il faut dire, le mérite, déjà, de ne pas opérer inutilement des gens dont on sait que ça ne va pas marcher. Ça, c'est mieux que rien, on va dire. Mais c'est quand même un discours qui est, à mon sens, assez limite. Et je crois qu'on peut-être que je dirais, on doit aller plus loin et se laisser interpeller. C'est-à-dire partager ce qui s'est passé pour avoir une idée plus exacte de ce que l'on peut proposer, mais ce qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va nous mettre face à face avec un patient. Et on ne va pas simplement, bien sûr, analyser un patient, mais on va être amené à relire nos vies et constater que nous avons tous plus ou moins tendance à pousser comme des tours de Pise. Il y a des choses qui vont, puis il y a des choses qui vont pas. Et dans les choses qui vont pas, eh bien, si on prend la sommation de ce qu'on a vécu depuis notre enfance, il y a toujours des blessures d'enfance. C'est normal. C'est logique. Nos parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais quand on entend le type de discours « Toi, on t'a jamais voulu. Ah, s'il y avait eu l'avortement. Dommage qu'il n'y ait pas eu la pilule. » J'ai eu, j'ose à peine le dire, mais quand même, pour que vous sachiez ce qu'on peut entendre, il y en a une personne qui m'a dit, ma mère m'a toujours dit que j'étais un résidu de fausse couche. Imaginez ce que peut vivre cette personne, comment elle va pouvoir survivre. Et il est sûr qu'après un coup pareil, tous les événements qui vont suivre vont être pris avec encore plus de sensibilité, parce que on est déjà à vif, c'est le moins qu'on puisse en dire. Et derrière, puisqu'on est dans cette position non voulue, détestée, ou en tout cas pas aimée, eh bien, on va souvent se retrouver en échec scolaire, et donc on dira, ben, tu vois bien qu'il aurait mieux va pas lui compter, puisque tu es en plus en échec scolaire. Donc on sera en échec professionnel, donc on sera en échec, donc on sera en échec, donc on sera en échec. Et tous ces échecs vont s'accumuler les uns aux autres, avec en plus des violences physiques, qui sont parfois évidemment catastrophiques. Et tout ceci se cumule pour finalement pousser un certain nombre de gens à tomber, avec peut-être des âges clés, à l'adolescence, la quarantaine, ou le suicide des personnes âgées, ce qui n'est pas un mince problème. Mais comme on est quand même avec un désir de vie, malgré ça, nous allons trouver des béquilles pour tenir. Nous allons tutoriser notre tour de Pise avec, alors toutes les addictions y passent, parce que le shit et l'alcool, bon, voilà, c'est assez classique, mais tout à l'heure on parlait du sport, parlons du travail. Moi je ne peux pas travailler moins de 15 heures par jour, vous vous rendez compte si ça arriverait, si jamais je m'arrêtais. Il y a d'autres maniaqueries, du genre je range les coussins parfaitement et je passe l'aspirateur même là où c'est pas sale, ce qui fait d'ailleurs bien râler mon mari quand il rentre, et ben là on peut démarrer là-dessus, mais au moins j'existe parce que c'est propre chez moi. On va avoir des positions un petit peu différentes vis-à-vis de la consommation. J'ai une grosse voiture, j'ai une grosse maison, j'ai deux grosses maisons, j'ai deux grosses voitures. Alors évidemment, on sent déjà que là, il va y avoir un moment ou un autre une limite à ce raisonnement. Cette béquille consumériste, qu'est-ce qu'on fait quand on a quatre voitures? C'est difficile. Mais on l'entend, on l'entend. Et si vous regardez, peut-être que j'ai caricaturé, mais nous avons tous plus ou moins certaines attitudes où, voilà, quand même, je suis content, quoi, hein, c'est bien ce que j'ai, ce que j'ai. Ce que je suis, ça se discutera. Après, heureusement, il y a sans doute des attitudes qui sont plus constructives, qui sont les expériences amoureuses. La relation à l'autre va nous aider. Mais quand la tour de Pise penche très fort, la relation à l'autre n'est pas forcément suffisamment puissante parce que l'autre, on y reviendra, il n'est peut-être pas tout puissant lui non plus. Et vraisemblablement, à un moment ou à un autre, eh bien, il y aura besoin de redescendre à la base pour constater que ce qui, au fond, induit l'angle de notre tour de Pise, c'est le « est-ce que j'ai été aimé à la base ? Est-ce que j'ai été désiré ? Est-ce que finalement, ce qui me fait pencher, ce n'est pas ma recherche désespérée d'être enfin aimé ?» Et on le sait tous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ce que je vous dis, et c'est pour ça que j'ai utilisé cette phrase de Victor Hugo, c'est que quand le patient nous dit ça, il nous renvoie à nous. Et c'est bien pour ça qu'on ne veut pas l'entendre. Alors, je crois que si on veut sortir de ce cercle vicieux, il y a un moment où il faut poser quelques règles de vie. Ce n'est pas très simple de dire « je choisis la vie ». Et ça dépend du bagage un petit peu qu'on a eu. Il faut faire la vérité. Et ça, c'est dur. Il va falloir rentrer en soi-même, c'est-à-dire évacuer notre superflu, notre j'ai. Tout ce que j'ai, finalement, ça ne change pas grand-chose. Et au-dessus de ça, pour nous permettre ça, eh bien, il va falloir accepter l'aide des autres. C'est par l'autre que l'on va pouvoir faire la démarche. Alors, un choix de vie. Eh bien, ça veut dire quoi, ça, finalement? Parce que c'est peut-être un peu trop imprécis. Et faire un choix de vie, c'est dire, je veux m'en sortir. Mais ça, on l'a tous dit 50 fois. On a tous dit, j'arrête. Ça, j'en veux plus. Ça, je vais. Eh oui, je vais, mais, je m'épuise. Et si je n'ai pas une relation à l'autre, bah, si j'étais capable de le faire par moi tout seul, ça fait bien longtemps que je l'aurais fait. Donc, on sent bien que sans l'autre, on va buter. Et qu'on peut, à ce moment-là, refuser de se complaire dans le système. J'ai quelqu'un qui un jour était venu me voir pour des problèmes cutanés, mais j'étends un petit peu l'orthopédie, et qui a fini par me dire, quelques mois après, elle m'a envoyé un SMS en me disant, finalement, la tristesse avait quelque chose de confortable. Eh oui. Finalement, elle gérait sa vie avec sa tristesse, mais bon, elle vivait avec. Et il lui a fallu beaucoup de temps pour réussir à sortir de cette tristesse, grâce à l'aide d'un autre. Quand on en vient à la vérité sur la relation, très souvent, on entend des phrases du style « Mon fils n'existe plus depuis que, je sais pas quoi, il se drogue et il sort avec une fille qui me va pas », enfin bon, des trucs comme ça. Ou bien « Mes parents, alors là, moi, je les ai rayés de ma vie ». Attendez, prenez un arbre, vous lui coupez la moitié des branches, vous me dites s'il tient à la prochaine tempête. Tout le monde sait que non. Coupez-lui la moitié des racines, ou coupez-lui toutes les racines, ça ne va pas durer 5 minutes, cette affaire. Donc on est dans une espèce d'illusion, on dit j'ai réglé le problème parce que je l'ai évacué. Mais pas du tout, pas du tout. Vous pouvez mettre toutes les couches de peinture sur de la rouille, ça revient l'année d'après, si on n'a pas fait le ménage. Si on essaye désespérément d'enterrer une vérité, poup, elle ressort avec un peu plus de pression. Et donc il va falloir faire un travail de vérité sur ce que nous essayons de paraître. Est-ce que finalement ma grosse voiture, elle me rend si heureux que ça? D'ailleurs, si elle me rendait heureux, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une deuxième? Pas très rentable, cette affaire. Donc cet effort de vérité, il va se faire vis-à-vis de mon image, mais il va se faire aussi vis-à-vis de mon alter ego, mon autre moi, parce que sans l'autre, je ne suis pas moi. Et donc cette relation, qui est un peu vicié quelque part, eh bien, on va avoir besoin de faire la vérité dessus. Et là, je crois que le rôle de l'autre dans notre reconstruction est fondamental parce que, enfin, on va avoir un autre regard sur la blessure. Cette blessure qui nous obsède, qui nous enferme, qui nous enquiste, pour prendre des termes plus médicaux, eh bien, quelqu'un va pouvoir ouvrir l'abcès. Ça ne va pas être indolore. Ceux qui ont suivi quelques thérapies, quelles qu'elles soient, savent que ouh, ça chauffe. Mais ça permet de prendre de la distance, de ne plus se laisser enfermer, de regarder la blessure. On n'a plus besoin de la nier puisqu'on est capable de la regarder. Et ça va permettre de enfin s'épanouir. Si toute l'énergie que l'on passe à masquer sa blessure, on la passe à vivre. Et si on les passait à vivre, vous imaginez les têtes qu'on aurait. On aurait vraiment des têtes plus souriantes. Là, je peux te dire que quand même, hein, quand je vous regarde. Mais imaginez, si nous pouvions être vrais, voir ce qu'a été notre vie sans pour autant en pleurer, mais vivre avec. C'est un appel à la vie que nous avons en nous. Et si nous sommes débarrassés de cette obsession de masquer ce que j'ai fait, que je ne veux pas voir, que ce que j'ai subi, rendez-vous compte l'énergie qu'on aurait. Et du coup, si on est plein d'énergie, cette espèce d'ignoble individu qui m'a fait ceci ou cela, est-ce qu'enfin je n'aurai pas l'énergie de le regarder différemment? Est-ce que je vais pouvoir me décaler un petit peu et ne plus, non pas seulement m'enfermer moi dans ma blessure, mais enfermer le blessant dans ce qu'il m'a fait? Voir au-delà de l'acte, la personne qui a fait. Relire son histoire à lui. Et découvrir que ce salaud, je me retiens aujourd'hui dans mes termes, mais voilà, ce salaud, avec ce qu'il a vécu, est-ce que j'aurais fait beaucoup mieux, moi? Je suis beaucoup moins sûr. Je trouve que c'est une façon intéressante de relire, par exemple, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tous ces salauds, qui peut-être ont pensé à protéger leurs enfants petitement. Ils ont joué petit bras. Mais ils ont collaboré pour des petites raisons. Nous, on aurait fait quoi? Il n'y aura pas de questionnaire à la fin. Mais peut-être qu'on serait gêné de répondre. Et ce qui est vrai pour ça est vrai pour toutes les actions de la vie. Et grâce à ce lien, on va enfin pouvoir être en paix. Vous savez, quand on peut laisser tomber les épaules et se dire... Qu'est-ce que je me sens bien? C'est comme ça que j'aurais rêvé d'être. Et peut-être qu'à ce moment-là, une fois qu'on est en paix, la parole va permettre d'aller au pardon. Je vous ai parlé de rouille tout à l'heure. Je pense que le recréer le lien avec le blessant, ce qui est finalement un pardon, c'est la seule chose qui peut, alors c'est peut-être pas la seule chose, parce que là je vais me faire attaquer trop fort, mais je crois que c'est quand même la chose qui le mieux peut nous guérir. Alors, c'est pas simple. Parce que la relation à l'autre, comme c'est un autre qui lui aussi a ses blessures, et c'est bien là qu'on voit les couples qui tiennent un peu qu'à un, qu'à un, on se tient comme ça, puis quand il y en a un qui avance, l'autre bouge aussi. Et puis à un moment, on a épuisé l'autre. J'aime bien le coup de ma meilleure amie. Oh, c'est ma meilleure amie, c'est souvent la seule. Dangereux, quand on a capturé l'autre. Parce qu'à un moment où l'autre, il taille la route. Et nous, on fait quoi? On s'effondre. Et ça, je crois que c'est important de réaliser que l'autre, il a ses limites qui sont inhérentes à un autre, comme il est comme nous. Il n'y a pas de raison qu'il soit différent. Et donc, ça va nous obliger à descendre plus loin, à se reconstruire nous-mêmes, et donc à avoir une relation à nous, et non plus seulement à l'autre. Bien souvent, on voit des gens qui vous disent « Ah oui, alors moi, je m'occupe de machin, et puis alors je fais ça, puis alors je fais ça, puis alors je... » Vous savez, j'ai toujours eu besoin de m'occuper des autres, moi. Et vous? Oh ben non, moi, j'existe pas. Mais c'est que les autres, ils en ont ras-le-bol de cette personne qui veut faire votre bien à tout prix. Peut-être que si cette personne était mieux en elle-même, elle fatiguerait moins les autres. Je ne sais plus qui disait « Celui qui travaille tout le temps fatigue tout le monde ». Mais voilà, peut-être intéressant d'y penser. Alors, on va descendre en nous, peut-être débrancher. J'aime bien la chanson de France Gall, la débranche. Enfin, là. Coupons. Est-ce qu'on peut avoir un peu de silence? Est-ce qu'on va pouvoir regarder ce qui nous manque? Parce que ce manque, il est normal, il est physiologique. Je ne suis plus dans le ventre de ma mère. J'étais bien au chaud, personne ne m'embêtait, sauf peut-être certains qui étaient déjà embêtés intra-utéraux, mais globalement. Et puis là, clac. Mais ça, c'est normal. Et d'ailleurs, si une mère vous empêche de vous expandre, on est mal parti pour la vie. Donc ce manque, il nous permet de vivre, mais lorsqu'il y a une absence d'attachement possible, comme dans les exemples que je vous ai cités, on passe au pathologique. Et là, il va bien falloir que l'on creuse et que l'on creuse, parce qu'il y a bien en nous autre chose que ce manque. Il y a bien une source, sinon nous ne pourrions pas vivre. Nous savons bien que nous avons un désir de vivre, quelles que soient les circonstances les plus affreuses, on a quand même envie de vivre. Faut être fou. Ben non, on est normal. C'est déjà un bon signe, remarquez. Alors ce manque, et cette source c'est quoi? Bizarrement, tout le monde la cherche, ou beaucoup de gens la cherchent. Il n'y a en gros que les repus beer-foot télé qui la cherchent pas. Et encore, je ne suis pas sûr qu'ils ne la cherchent pas quelque part. Mais ils ont préféré rester au niveau beer-foot télé. C'est pas très grave. C'est peut-être un peu dommage. Parce que je pense, et c'est quelque chose que mon expérience clinique m'amène à penser de plus en plus, c'est que chacun est appelé à aller au stade du dessus. On n'est sans doute pas tous appelés à avoir les mêmes démarches. Heureusement, ce serait d'une tristesse effrayante. Mais on est tous appelés, on a tous au fond en nous un désir d'aller un peu plus profond. Un peu plus profond, et bizarrement un peu plus profond, c'est un peu plus haut en même temps. Cette source, si elle est juste, elle est par définition accessible à tous. On ne peut pas imaginer une source qui serait réservée à une élite ou à un petit groupe. Ce serait absolument ignoble, insupportable. Donc c'est une source qui est pour tout le monde. Par définition inépuisable, parce que nous savons bien que notre désir est inépuisable. Or, s'il y a une source qui nous comble, et comme notre désir est inépuisable, il faut que la source soit inépuisable. Et c'est quand même assez enthousiasmant de sentir, quelque part, qu'il y a quelque chose de ce niveau. Mais heureusement, plus on s'en approche, plus on en a envie. On est dans le désir qui croît. Au lieu de tomber dans l'absence de désir du beauf beer-foot télé, on est dans le désir qui croit. Et ça, ça ouvre quand même à une autre dimension. On est plus à l'aise en se disant « Ben, j'aurais jamais fini de vivre. puisque j'ai toujours envie de plus. Alors que si j'ai envie de plus rien, bah, pas terrible. Alors, comment la retrouver cette source? Parce que c'est bien mignon cette histoire, mais hein, si tout le monde savait où était la source, d'abord vous ne seriez pas là, donc je serais tout triste. Et puis, c'est quand même intéressant de se dire, mais comment on y va? Où elle est? Alors, moi j'ai pris pour habitude d'essayer de demander quand est-ce que vous vous sentez bien. Au milieu de votre vie qui quand même est dure, est-ce qu'il y a un moment où vous vous sentez bien? Et l'autre jour, j'ai une patiente qui m'a dit, ah oui, il y a un moment, je sais, c'est... Alors, voilà. Et c'est marrant parce qu'elle s'est mis vraiment dans la position. Et voilà, il me faut un rayon de soleil dans le dos, je suis au chaud, je suis tranquille, il n'y a pas de bruit. Et à ce moment-là, je vous cite texto, je suis dans une bulle où rien ne peut m'atteindre. Bon. Eh bien, à partir de cette bulle où rien ne peut l'atteindre, où elle est enfin là où elle veut être, eh bien, elle découvre que ceci est un point de résurgence. Vous savez, quand on traverse le désert, bizarrement, on se dit, ben nous, on va aller tout droit, c'est quand même plus court. Et le chamelier vous fait faire un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Ben oui, parce que lui, il sait où il y a des résurgences. Et il va d'un point de la source à un point de la source. Parce que si on veut aller tout droit, on sera épuisé avant d'y aller. Mais de petits points de résurgence en petits points de résurgence, on va pouvoir avancer. Eh bien, de relire notre vie en regardant où est-ce qu'on s'est senti bien, permet d'avancer vers la source, de se retrouver. C'est souvent dans des zones de silence. Et ce n'est pas forcément notre monde qui nous favorise la tâche pour ce travail-là. Mais c'est fabuleux de voir des gens qui, peu à peu, s'ouvrent à la source, qu'ils la flairent, ils la sentent, ils ont l'intuition. Mais l'autre là-dedans est quand même tout aussi fondamental. Parce que la présence de l'autre, mon Dieu, si ça fait des milliers d'années que des hommes par millions cherchent une source, et par hasard, non, pas par hasard, allons, au fur et à mesure, le chamelier y connaît le chemin et toutes les caravanes, depuis des milliers d'années, passent par le même endroit. Et c'est ça le sens des grandes traditions. C'est que finalement, chacun va aller par son chemin, parce qu'on va toujours trouver un endroit pour couper un petit peu. On va construire notre chemin. On n'a pas tous le même chemin. Mais au fond, chacun va pouvoir descendre à sa source, à l'aide des autres, et nous ouvrir l'esprit à autre chose, à une autre dimension. Donc l'autre, il intervient comme un panneau indicateur. Tiens, tu sais, par là, c'est pas mal. Tu fais comme tu veux. C'est pas mon problème, moi, ce que tu fais. Mais, c'est bien, tu sais. C'est un accompagnateur. C'est quelqu'un qui va marcher avec celui qui essaye d'avancer. Et pas, moi je sais ce qu'il te faut. Le moi je sais ce qu'il te faut, d'ailleurs, vous n'avez pas fini la phrase, qu'on sent déjà bien que c'est faux. Mais, voilà, on peut marcher. Aimer, ça suppose de mouiller la chemise. Et vous comprenez bien pourquoi la relation médecin-malade dans notre monde foutu comme il est foutu, elle en pâtit parce que passer du temps, la réponse en général, c'est les gens disent « Oui, mais alors vous, je ne sais pas comment vous faites, parce que c'est pas possible, on peut pas passer plus de 5 minutes avec un patient. Ah bah oui, mais alors là, il faut fermer la boutique. » Donc ça suppose de s'impliquer, de passer du temps, de savoir que il faut y aller, quoi. Et de façon assez curieuse, en réfléchissant à ce que je vous ai dit aujourd'hui, je me suis aperçu que ce que je vous ai dit me semble parfaitement exploitable dans un raisonnement, dans un questionnement au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau d'une société, d'une entreprise. Puis comme c'est les élections d'un pays, évidemment, je ne pouvais pas couper à cette actualité-là, mais je crois que c'est important de raisonner comme ça. Cette nécessité de revoir quand est-ce qu'un pays a été bien, quelle a été sa phase heureuse, quand est-ce que finalement on a partagé. C'est bizarre, mais c'est aussi vrai pour nous que pour tout un chacun. Alors, je crois qu'on peut tordre le cou à la douleur psychosomatique, puisque c'est quelque chose qui tue la relation avec le patient. Quand on dit c'est psychosomatique, en général, c'est on passe le ballon et vraiment très loin en arrière. D'ailleurs, on perd la balle dans ces cas-là. C'est amusant, ça, comme métaphore, mais réfléchissez, quand on veut évacuer le truc, c'est fini. On coupe la relation. Je crois que la douleur psychosomatique, c'est une vraie douleur. J'ai mal là où je vous le dis, mais peut-être que je vous parle d'autre chose. Que ce qui peut participer au traitement, eh bien, c'est l'implication dans la relation, la recherche d'un sens, l'apaisement. Et que donc, si on veut guérir, eh bien, il faudra, un jour ou l'autre, descendre à sa source, source qui est vraisemblablement commune, mais qui est un appel à beaucoup plus. Merci.